J'aimerais bien que les gens, de temps en temps, c'est dur à me connaître, j'aimerais bien, parce que les gens, Vandamme, c'est qui, Aware, tout ça, il a créé son
personnage.
J'aimerais bien que les gens viennent avec moi pendant un mois, avec, non, je sais pas m'expliquer, je suis trop compliqué.
You good dancer?
Dancing?
Yeah. American dancing. Disco.
Oh yeah, dancing, I'm good, why? I'd
like to see you dance. Observe your balance.
Here? Really?
Dans la vie, réacte. On réacte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. Travailler, manger, je m'excuse l'expression chier, mais je trouve qu'un être humain doit créer.
Dans la rue, eh ben on aimerait ne pas se dire tiens, je suis une femme, et on a parfois une insulte, une invective, quelqu'un qui nous suit et qui nous rappelle qu'on est une femme, et au-delà du fait d'être une femme, qui nous rappelle à notre condition de femme, et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme.
Oh my God, excusez-moi, mais...
Je vous en prie, allez-y.
Non, mais... Attends.
Qui nous rappelle qu'on est une femme ou un objet.
Mais non, non, tu es une femme, je suis un homme.
D'accord, jusque-là, je vous suis.
Il y a des femmes qui aiment travailler.
Oui.
Comme toi.
D'accord.
Et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler.
D'accord.
Il y a des femmes qui aiment rester à la maison.
D'accord.
Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants.
Ok.
Si toutes les femmes travaillent,
oui,
qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, un chien, c'est un chien, un film, c'est un film. C'est tout. Je ne sais pas si je dois parler comme ça. Je suis un mec très, très, très simple qui a réussi, mais je vois les choses très simples. Et c'est énervant parce que la vie est tellement courte. On est là pour s'aimer, on se fait des complications. Il y a eu les Weinstein et toutes ces histoires de lawsuit qu'on a presque peur à parler à une femme. En Amérique, les gars, ils ont peur de parler à une femme. Ils sont souillés.
Est-ce que vous êtes homo?
Hein?
Homo.
On est tous homo.
Parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans ma glace. Pourquoi?
Ouais.
Pour avoir un beau corps.
Ouais.
Ok. Alors, on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux.
Ouais.
Alors, j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo?
Ouais.
Je sais pas. Alors, quand je vois un homme dans une douche qui a un beau corps, je dis, il a un beau corps, ce mec-là. Je suis homo? Non, je crois pas. Mais j'aime bien les belles choses. Enfin, moi, je parle pas des femmes parce que moi, je viens des femmes.
Ouais.
Ok. Bah oui, ceux qui m'ont fait. Alors, les hommes disent toujours la femme ceci, la femme cela.
Ouais.
Et la femme dit l'homme ceci, l'homme cela. Et en vérité, celle qui l'a fait et lui, il se plaint d'elle. Alors, il y a un problème, le mec. Ça fait maintenant 2000 ans quand même. Il y a les guerres, on répète les mêmes guerres toujours. On est toujours au jardin d'enfants.
Ouais.
Alors, je trouve qu'un homme et une femme devraient un peu plus s'entendre. Un homme doit être sensible comme une femme. Et une femme forte comme un homme,
oui.
Comme ça ils ont les deux qualités ensemble, ça fait le yin et yang et ça fait un couple super
voilà.
Comme moi et ma femme. C'est tout.
Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Et alors là, elle peut procréer des choses qu'elle a envie.
Le pire boulot que vous ayez fait, c'est quoi?
Attendre.
Il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, peut-être que je... Ça. Rien qui se passe.
Ouais.
Il faut être persévérant.
Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça. Tu as un rhume, tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu veux un mouchoir?
Des années, donc, vous essayez de rencontrer des producteurs, des acteurs. Vous êtes le genre de mec un peu collant, faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous attendez les mecs sur les parkings, les acteurs, les producteurs.
Mais ça, c'était avant la drogue, hein.
Ouais. Oui, bien sûr.
C'est important parce qu'on reconnaît pas
bien
les voitures.
Bien sûr, non, mais c'est bien plus tard.
Les problèmes, quand on fait de la drogue, on sait plus quelle voiture c'est et quel mec on a parlé. Il y a un truc qui se passe, là. Je suis sur une histoire. Ce que je vais faire, là, je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique, dans le net.
Mmh.
On va annoncer un film dans le net de chaque pays. Mmh. Puis on ira sur le web. Et puis on fait avec des antennes.
Mmh.
AT&T, Opac Bell, ou AOL. The White Band. You know about the White Band? Hello. OK. And let's talk about son chapeau. Alors, on va aller sur le White Band. Et là, the White Band, on pourra toucher 250 millions de viewers.
Ouais, ouais.
Ça, c'est quelque chose de bien
ouais.
pour un film de qualité avec $1.99. Comme ouais. Tous les gens au monde entier, les gens qui n'ont pas d'argent, ils appuient sur un bouton, ils ne doivent pas attendre 40 heures pour le download,
ouais.
Download okay, parce que c'est fait avec Waves. Ouais. On va distribuer les films avec le téléphone.
Ce
sera la première fois qu'on le fera. Le Muscles from Brussels is going to do that, OK?
Ouais.
Before Lucas, because on attend pas le satellite. Je ne peux pas attendre le satellite.
Ouais.
Il dépense trop d'argent.
Ouais.
Ça coûte des millions de dollars.
Ouais.
Alors, on a trouvé un système grâce au net.
Pelou, c'est un moyen de nous faire du pognon, ça.
Ouais. Eh oui.
Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau.
Jamais. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule. Hein. Mais ça vaut le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excusez-moi. Bon, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux. Bon, ok.
Et je me suis promené sur la plage. Il y avait beaucoup de vent. Il pleuvait. La mer était déchaînée. Et j'ai dû me pencher en avant. T'as vu comme j'aime la vie, hein? J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules, called CO2, qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent a poussé la matière, la masse moléculaire, et avait plus d'impact sur mon corps, donc j'ai dû me battre contre cette masse, parce que c'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. Ce qui est super.
Dans 3000, les gens vont parler avec, des yeux, avec des ondes. C'est pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux se communiquent, vu qu'ils savent pas parler dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes de love ou de hate. Et la communication se fait comme ça.
Quand tu es une personne qui est élevé dans une famille catholique, tu vois, tu as un certain guilt, une culpabilité. Et je suis très dur envers moi-même. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Quand je travaille, je travaille. Et quand je fais des conneries, je fais des conneries. Sans me rendre compte, avec les mois qui passaient, je devenais, sans me rendre compte, quand même assez agressif avec moi-même, très dur avec moi-même, et puis avec les gens.
Peut-être que ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok, je suis un homme qui parle à un homme maintenant, à un jeune garçon. Ok, encore un enfant. Je connais, je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir, il a besoin de ses yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok.
Moi, je trouve que quand t'es chez Stallone et que tu vois Vandal et Steven Seagal qui sont à deux doigts de se foutre sur la gueule, ça doit être étonnant. Hein,
ouais.
Quand t'es dans la maison à ce moment-là.
Tu ranges les meubles. Hein.
Tu prends ton caméscope et tu fais un film. Hein. Attention.
Il y a Stallone qui a dit I'm not going to say I'm fucking crazy, I'm going to go and fucking fly there. So, il a dit ça, tu sais, il dit il va pas dehors, moi je vais pas le faire et tout.
Quand tu fais un film et tu réussis, tes nouveaux majeurs studios là, le manque va être distribué avec la Dimension Disney.
Ouais.
Du coup, c'est nouveau, le mec est bien. Et puis, il y a des hauts et bas dans le cinéma. Hein, Nicolas Cage, John Travolta. Mais ce jeu m'intéresse plus. Ouais.
En parlant de concurrence, il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi, et c'est comme ça qu'on fera le meilleur monde. Hein? Boum. Bon. Ok.
Des vrais partenaires dans le business, c'est des mecs qui se tiennent back to back.
Ouais.
Parce que moi, j'ai connu ça quand j'ai fait de la coke, je suis tombé dans la merde. Ouais. Tous mes avocats, mes agents, mes amis, ils sont partis. Il n'y a personne qui vient me chercher à l'hôpital, ok?
Ouais.
Alors, j'ai dû raser ma tête, aller au gym, tout ça. Maintenant, j'ai trouvé des gens solides.
D'accord.
Okay? Ok. Donc, il faudrait des gens, parfois, il faudrait des gens qui ont eu des problèmes dans la vie. Qui ont connu vos histoires et mon histoire, et des gens comme ça, ils savent qu'on ne peut pas accuser quelqu'un qui était... Parce que si on est grande idée, on n'est pas restreint comme ça, comme un cheval de course. J'ai fait ma vie, j'ai roulé ma bosse, j'ai fait la coke, j'ai fait les femmes. Il y a des gens qui disent que j'ai fait 4, 5, 6, 7, 10, je ne sais pas quoi. On a tout fait, ok? Alors après ça, on fait un point sur la vie. Alors, combien de temps il me reste à vivre, hein? 45, 60, 70, je sais pas combien de temps. Il faut faire quelque chose de bien, la vie. Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego. Parce que ça fait part de la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Donc, je suis mégalo, je suis mégalo. Miss France, donnez-vous droite, s'il vous plaît.
Vous m'avez appris à vaincre. Et à ne jamais se limiter à une seule technique. Donnez-moi les moyens de combattre. Pourquoi? Pour vous faire honneur.
Faudrait qu'on mate Bloodsport en fait, ce serait mieux.
En fait, on a... mais c'est ça en fait, les, ça trucs, les trucs, vu qu'on va se mater Street Fighter, vous êtes toujours dans Contrebande, émission cinéphage. On va se mater Street Fighter.
Est-ce
parce que
vous êtes aware?
On est aware. En fait, on va se mater Street Fighter, pourquoi? Parce que bah, on a parlé Street Fighter juste avant, on voulait parler Street Fighter, et ça, moi je me suis dit ça peut faire un lien avec Jean-Claude Van Damme vu qu'il est là. Et donc, du coup, avec toute une culture baston.
Dans pas trop de temps, il y en aura plus.
Ouais, voilà, exactement. Mais tu sais quoi? On va parler de Bloodsport. Ouais. On commencer par le début. Pour ouais. aborder Jean-Claude Van Damme, le côté baston.
C'est un bon début, ouais.
Parce que Bloodsport, c'est, il a fait trois films au début de sa carrière qui sont un peu le culte. D'ailleurs, les trois films se ressemblent un peu. Oui. Voilà, c'est vraiment Bloodsport, Kickboxer et Full Contact. Et franchement, les deux premiers sont vraiment super. Et surtout Bloodsport que j'apprécie énormément, que j'ai découvert très récemment. Et tu vois, pourquoi tu m'as fait cette réflexion déjà un peu insolente hein, sur on aurait dû se mater Bloodsport en fait, et je suis d'accord.
Tout simplement parce que Bloodsport est un meilleur film Street Fighter que le film Street Fighter The Movie.
Et c'est assez fou. Pourquoi à ton avis c'est un meilleur jeu? Alors, parce que moi j'ai ressenti ça quand j'ai vu Bloodsport, c'est un jeu de baston. Vraiment dans ce truc d'arcade. Bah, qu'est-ce qu'on attend d'un jeu de baston? Un combat, ouais, un gagnant, voilà. Un perdant.
C'est un tournoi en fait, c'est un film sur un tournoi, le comité du coup qui est plus ou moins. En plus, un tournoi de combat clandestin, donc c'est du combat de rue en fait, plus ou moins, organisé. Et ouais, pareil, c'est le délire des champions de différentes régions du monde qui viennent s'affronter pour déterminer lequel est le plus fort.
Mais il paraît que c'est vrai, parce que ça, c'est inspiré de la vie de Frank Dux.
Frank Dux, oui.
Qui est le personnage que joue Van Damme, son, oui. premier, rôle, son premier rôle principal.
Ouais. Qu'il a fait démarrer vraiment à Hollywood, ouais.
Mais en même temps, il est impressionnant Van Damme dedans. Mais d'abord, juste.
Il faisait de la figuration essentiellement, et c'est son premier rôle qu'il a déniché, ouais.
Oui, il avait fait de la figuration et quelques rôles de plus en plus imposant parce que voilà, il montrait sa tête, il était charismatique.
Il était là, ouais.
C'est vrai que quand tu vois Bloodsport et que tu regardes Van Damme ou même Kickboxer, parce que bah voilà, c'est vraiment les débuts, tu te dis putain, c'est un corps de cinéma quoi. Ouais. C'est comme il a ce côté de Schwarzenegger de beau corps, tu vois, de corps instruments, j'ai envie de te dire, qui sont impressionnants, qui crèvent l'écran.
Façonné, etc., entraînement intensif.
Mais lui avec surtout des capacités physiques exceptionnelles quoi.
Oui. Bah, une souplesse à toute épreuve, du coup, bah, vous connaissez tous le signature move de JCVD, et c'est un petit peu ça qu'il a essayé de montrer tout de suite pour se faire remarquer, bah, le grand écart, quoi, tu vois.
Le grand écart.
Pas beaucoup de gens qui font un grand écart dans la jante masculine, j'ai envie de dire.
Mais donc, surtout, en fait, c'est surtout pas beaucoup de gens avec la musculature, une musculature imposante qui arrive à le faire. Allier force et souplesse sont plus souvent deux choses qui sont relativement incompatibles.
Ouais, parce que c'est pas un poids lourd, hein, ça c'est clair. C'est quoi? C'est un plume, je sais pas.
Alors là, franchement,
je connais pas, je ne connais pas non plus. On va sans doute se faire cracher dessus. Mais c'est sans doute pas, ouais, un poids lourd. Mais ouais, non, de passer de la figuration à son premier rôle sur Bloodsport, du coup, ouais, qui est pour le coup vraiment un film de baston de rue, voilà.
De démonstration physique.
Démonstration physique, exactement. et puis bon, bah voilà, c'est le premier grand rôle de JCVD. On peut un petit peu critiquer sa manière de jouer parce qu'il est dans le cabotinage pas mal en fait, JCVD. Mais il montre...
apparemment, il a beaucoup. Il y a eu un premier montage de Bloodsport et il a beaucoup influé et il était horrible. Si bien que les producteurs de l'époque de la Canon Film qui ont beaucoup produit Chuck Norris, donc c'était. Je me souviens surtout d'un des noms, c'est, j'allais dire Golan et l'autre, c'est, je sais plus, c'est Glombus. Mais il y avait comme ça voilà, des studios indépendants qui étaient tenus par des producteurs juifs, notamment les Weinstein avec Miramax et Golan et l'autre pour la Canon.
Ouais.
Et c'était souvent, on va dire, ce côté de Nabab, quoi.
Ouais.
On imagine hein, les deux gars un peu dégueux et tout. Un peu mafia, quoi, en fait.
Okay, ouais.
C'était tenu par des communautés, un peu ces réseaux indépendants de films. Et donc, ils agissaient sur des franchises qui étaient un petit peu, voilà, les réseaux un peu underground. Hein.
Ouais.
Et, j'imagine aussi dans les pornos, ça devait être un peu comme ça, voilà, tenu par des espèces de fratries.
Ouais.
Et ce qui était génial par rapport aussi au délire, ce que je voulais dire par rapport à... Ah oui, donc Van Damme a été en salle de montage après, c'est lui vraiment qui s'est imposé, qui a dit au producteur, à Golan, moi je veux, laisse-moi monter le truc, parce qu'en fait, vu que dès le tournage, il s'est vachement impliqué dans tout ce qui va être cascade et tout, c'était lui le meneur des chorégraphies en fait, dans un sens, il s'est dit qu'il allait pouvoir apporter un rythme à la manière dont vont être mis en avant les mouvements.
Ouais.
Et tu vois, Van Damme, c'est un danseur, et c'est vrai que quand je disais corps cinéma, c'est que le mec fait des ses coups de pied sont à la fois des mouvements de... Il suffit de voir des danseuses étoiles, des ballerines, pour voir d'où vient sa technique des fois.
Ouais.
Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Et puis aussi, donc je disais que c'était Bloodsport, c'était par rapport à la vie de Frank Dukes.
Ouais.
Et qu'apparemment, ces genres de combats à la clandestin existaient vraiment. Ce serait une
priori,
histoire vraie. Il raconte
priori,
avoir fait...
Il y a une part de vrai. Après, Frank Dukes, moi, dans les trucs que j'ai pu voir à côté en m'intéressant un peu à Bloodsport, c'est aussi un petit peu un espèce de charlatan, mais c'est des choses qui sont arrivées par la suite.
C'est peut-être pour ça qu'il a fait des combats clandestins.
Ouais, c'est peut-être pour ça, mais bon, voilà, ça nous vend un film qui est très très cool à regarder pour le coup. Bloodsport, vraiment, c'est un bon moment. Et puis ouais, un jeune JCVD qui envoie du pâté. Même là, l'acteur, l'antagoniste dans le film, j'ai pas le nom en tête.
Moi non plus, mais on le voit dans Opération Dragon, par exemple.
Ouais, qui envoie du steak lui aussi, quoi. Tu vois, c'est la masse, c'est le boss de fin, quoi. Et tu sens que il y a du très très lourd en face, quoi. Donc tu vis le tournoi avec lui, quoi.
Et Kickboxer, tu vois, c'est un peu le même délire aussi, sauf que Kickboxer va s'appuyer énormément sur l'entraînement qui va durer presque une heure de film.
Ah ouais.
Et par contre, voilà, pour une finalité qui est d'affronter le boss de fin, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter, en parlant du boss de fin, qui est joué par Mohamed Kissi, qui est l'ami de Jean-Claude Van Damme, qui l'a suivi dans énormément de ses films.
Qui a été son manager, ouais.
Absolument, ouais.
Et c'était même son meilleur ami, en fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont ados, et ils ont monté ensemble.
Ils ont
débarqué
à Los Angeles ensemble.
Ils ont monté ensemble le club Beverly Gym en Belgique, avant de partir aux États-Unis. Ouais, ouais, parce que tu vois, Van Damme, je pense que quand il a percé, il devait à peine avoir la trentaine. Hein.
Ouais.
Donc c'est quand même une. Et déjà, c'est ça aussi qui accompagne le nom d'un mec comme Van Damme, c'est cette idée de success story.
C'est ça.
Qu'on lui a quand même finalement beaucoup enlevé, et on a l'impression qu'il en parle tout le temps. Mais j'ai l'impression que moi, on lui a quand même beaucoup enlevé.
Ouais,
et ça va être un autre débat. Finissons juste rapidement voilà, sur les premiers. Parce qu'on ne va pas aborder toute la carrière de Jean-Claude Van Damme.
Bien sûr.
En tout cas,
parler de ces deux premiers.
Pas de JCVD s'il n'y a pas Mohamed Kissi. Ça, c'est
bien
très
sûr,
important.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on parle de Kickboxer. Du coup, Mohamed Kissi qui joue Tong Po, l'antagoniste du film, qui est quasiment méconnu ça parce qu'il est thaïlandisé. Pardon, excusez-moi.
Ouais.
Et je crois, mais je suis pas sûr qu'il a participé notamment à la chorégraphie des combats de ce film-là. Alors, à prendre avec des pincettes, je suis pas sûr à 100%.
Ce serait pas choquant.
Mais c'est le combo Mohamed Kissi JCVD. Le Mohamed Kissi de l'ombre. Derrière chaque JCVD se cache un Mohamed Kissi, j'ai envie de dire.
Non, mais il faut vraiment voir les premiers films de Jean-Claude Van Damme parce qu'ils sont vraiment déjà très plaisants à regarder. Et en plus, c'est pas des films qui sont non plus. Il y a une ambition, mais je veux dire, c'est pas non plus une prétention, je trouve, exceptionnelle. Et puis en plus, Jean-Claude Van Damme avait pas encore. C'est pas lui qui doublait ses films. il avait un doubleur. Et ça, c'est
la VF, elle est pas mal.
La VF, pas mal.
Tiens, c'est marrant.
J'aime bien.
Mais ouais, non, juste pour revenir sur cette, sur le fait que oui, JCVD cabotine à fond, mais parce qu'en fait, il vit le truc à fond en fait. Quand il est derrière la caméra, il incarne le, c'est vraiment l'incarnation du personnage comparé à certains autres qui, on fait toujours la comparaison entre la scène de fin de Bloodsport. Où t'as JCVD qui s'est pris du sable dans la gueule, il trouve plus son adversaire, il se met à hurler et tout, il a du sang plein la gueule. Enfin voilà, là, tu sens que le gars est dans le mal. Et comparé à ça, t'as un Steven Seagal dans je ne sais plus quel film qui est sur le dos d'une bagnole en pleine vitesse et qui vit sa meilleure life quoi. Tu vois, qui vit le truc, mais pas trop en fait. Donc c'est ça. Donc JCVD, il a apporté de l'humanité un petit peu dans ses héros de films de baston, de combat de ces années-là quoi. Tu vois.
C'est vrai.
Ouais.
Un côté un peu plus sensible, ouais.
Ouais, ouais, carrément. Ah oui, mais je pense que c'est un émotif, c'est insensible, JCVD. Ouais.
Ouais, 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 ça ouais, ouais. Pense, ouais. Un végétarien, il paraît.
Ah, peut-être.
Il adore
l'eau toujours.
Vrai, il adore l'eau toujours. Ouais. Mes amis, parlons aussi. Voilà, j'ai envie qu'on parle de films de bagarre.
Ouais.
Parce que les films de bagarre, voilà, JCVD, c'est un entre deux générations. Il y en a déjà eu avant lui, surtout dans les années 80, avec ses héros des années 80, les Stallone et Schwarzenegger, qui étaient plus des bourrins. Que des bagarreurs, ouais. Tu vois, c'était pas les films de baston
Chuck
comme
Norris
on l'entend.
Aussi.
Et je pense que du coup, ceux qui sont à l'initiative de ça, de ces films de bagarre, et c'est hérité du coup du film de samouraï. Je suis pas un énorme spécialiste de ces franges-là, donc je vais dans des grands mots, mais ça a été les asiatiques, quoi. Parce que pour moi, ce qu'on appelle vraiment les films de bagarre, ce qu'on va appeler les films d'arts martiaux, ça vient de l'Asie, et ça a été surtout, je pense, le chef de file, ça a été Bruce Lee, quoi.
Ah oui.
Bruce Lee, qui moi, gamin. Ça a été mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ça fait partie des premiers films que j'ai saignés, quoi.
Ouais.
Les premiers films aussi, tu vois, tu prends un Bruce Lee, même c'est plus mauvais, hein, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus occidentalisés. Ce que je trouve que c'est meilleur à Bruce Lee, c'est vraiment Big Boss et La Fureur de Vaincre.
Ouais.
Parce que même si La Fureur de Vaincre, génial La Fureur de Vaincre, parce qu'il y a déjà ce truc du combat un contre tous. Okay, qui est magnifique au cinéma.
Le beat'em up.
Le beat'em up.
On est là.
Qui est magnifique, quoi. Qu'on retrouvera plus tard dans des films comme Hot Boy, mais d'une autre manière. Et Big Boss, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait c'était ça aussi que je voulais vous dire tout à l'heure avant la pause, avant que j'ai un trou. Au niveau des beat'em up, de tous ces jeux là, de bagarres, etc., mais même dans les films, on est souvent quand même sur des univers urbains.
Oui.
Ouais.
Ah oui, le côté street est présent à fond, bien sûr.
Que tu vois, jusque dans Bloodsport, ce truc, c'est qu'ils vont au comité, donc ces combats clandestins, qui sont présentés par un mec, je me souviens au début, une espèce de guide. Parce que je sais plus dans quel bled ça se passe, qui leur dit, là vous rentrez dans une autre zone, une hors zone.
C'est ça.
C'est pas les mêmes lois, tu vois. C'est ce truc de la périphérie, tout comme était ce cinéma périphérique, quoi.
Oui.
Et quand t'es dedans, t'es là pour voir. Tu vas voir du sang, tu vas avoir mal, et en même temps tu vas kiffer. Puis t'auras de la musique. Ça, c'est magnifique, quoi.
Bah, très Fight Club, quoi, au final aussi. Quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Et je sais pas si c'est, alors sans vouloir plonger dans la philosophie de comptoir, une volonté un peu. De faire une balance entre le fait qu'on habite dans un milieu urbain avec nos petites habitudes, métro, boulot, dodo, et qu'il y a une vraie communauté underground qui se bastonne et
qui se réveille casse
la un
nuit,
peu les règles. Ouais. Ouais,
c'est souvent des prolétaires
The Warriors,
qui se bagarrent.
Ouais. On revient sur The Warriors.
Ouais.
Qui, putain, faut vraiment que je regarde ce film.
Mais oui, non, il y a vraiment deux parallèles à faire. Ouais,
c'est
entre
souvent des bikers, c'est souvent soit autrement des espèces d'ermites très spirituels.
Ouais.
Sinon, c'est souvent aussi des mecs qui travaillent. Vous savez, on les voit se battre avec des clés à molette, quoi.
Ouais.
Et sinon, il y a
c'est très pour.
Il y a des militaires beaucoup, en fait. Beaucoup de militaires aussi.
Ouais, c'est très populaire en fait, du coup, comme type de communauté. En fait, c'est pas les gens de la haute en fait qui connaissent ce monde-là, quoi. En fait. Faut être proche du peuple, quoi, un petit peu. C'est cette approche-là que c'est quelque chose de très, très populaire, en fait. Ouais,
ouais, c'est ce que les Américains appellent le Skid Row. Un groupe que j'aime également bien, que tu connais peut-être.
Je connais de nom, mais j'ai pas écouté. Ouais.
Bah, Skid Row, en fait, c'est vraiment le quartier populaire où t'as la communauté de prostituées, ça, deal, etc. Enfin, le quartier populaire par excellence, le Skid Row, du coup. Qui est souvent, aux États-Unis, en fait, le centre-ville est souvent la zone la plus populaire, la plus banlieusarde, enfin pas banlieusarde, mais la plus craignos en quelque sorte des villes, en opposition à nos villes françaises où le centre-ville parfois c'est la zone la plus sécure entre guillemets.
Ouais, ouais. T'inquiète, il y avait des bagarres de quartier.
Ouais, genre, je doute pas. Hein.
Et justement, alors vous, votre film de bagarre, parce qu'il y a eu au moins 2-3 générations de films de bagarre, aujourd'hui on peut citer précédemment les Ip Man et Ong Bak, etc.
Ouais.
Vous, alors, un film de bagarre qui vous vient en tête, qui vous a marqué, que vous aimez bien, un bon film de baston.
Hey, j'en ai pas maté tant que ça, tu vois, pour le coup.
Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué?
Là, il me faut un petit peu de temps pour réfléchir. Bien sûr. Que Thomas, ouais, tu dis ça.
Alors, il y en a peut-être d'autres, mais là, de tête, je partirais sur Kill Bill. Hein. C'est,
tu vois.
Et parce qu'en fait, c'est un film que j'apprécie beaucoup parce que t'as un peu cet hommage au film de karaté, forcément, mais également, quand on y pense, au film de bagarre à l'américaine des 80s, 90s, quoi. C'est parce que,
mais c'est Jean-Claude Van Damme qui a beaucoup amené ce truc asiatique aussi. Il a amené des réalisateurs hongkongais, on le disait, hein, Tsui Hark, Ringo Lam, je crois, John Woo, et Tarantino aussi avait cette culture. Le Wu-Tang aussi, il faut qu'on parle du Wu-Tang Clan, vous savez, aussi,
oui,
hein,
il y a cette culture,
rien que leur nom. Proviennent d'un film de Shaolin.
C'est ça, et
du coup, c'est vrai que cette culture années 90 a un peu redonné à César ce qui était à César pour parler comme un blaireau.
Ouais.
C'est en fait de ces films de bagarre qui peut-être étaient passés dans des cinémas de quartier. En fait, a extrêmement influencé. C'était un genre à part entière. Ils ont voulu ramener ça aux États-Unis.
C'est ça.
Et c'est vrai que ça aurait été intéressant. C'est ce que je vous disais. Vous imaginez-vous quand même si Jean-Claude Van Damme et Tarantino s'étaient rencontrés avec une BO du Wu-Tang. Ça aurait pas été un cocktail pas mal.
Ça aurait été un truc ouf, c'est clair. C'est clair. Sinon, un film de bagarre. Bon, je suis quand même très très dans le mainstream. Là,
je vais
penser à Rocky ou le premier Creed, quoi, qui m'ont bien plu parce que j'aime bien la boxe aussi.
C'est ça aussi qui est bien avec Bloodsport, vu qu'on disait que c'était un film de tournoi. Peut-être qu'il y aura moins ça dans Street Fighter, je vais le découvrir. Mais Bloodsport, même s'il y avait du sang, qu'il y avait le côté urbain, brutal, thriller, il y a aussi ce truc de compétition en fait. Que Rocky a entièrement, même si on voit ses aléas, les trucs un peu sociaux.
Et puis phase d'apprentissage, surpassement de soi, et puis.
Et maintenant que tu le dis, Rocky correspond également au côté urbain, parce qu'il est à Détroit,
je crois que c'est Détroit.
Et on voit quand il travaille pour un espèce de prêteur sur gage, un usurier un peu mafieux, quoi. Tu retrouves le côté précaire.
Il vient de la plèbe, complètement, le Rocky. Complètement.
Ça m'a fait extrêmement plaisir ces petites, petites longues discussions qu'on s'est faites, chers camarades. On va se mater Street Fighter. J'aurais aimé que tu l'introduises un petit peu. On va se faire une petite pause musicale un petit peu.
Ouais, okay,
et après,
si
on se mate Street Fighter. Mais avant tout ça, présente-nous à la Street Fighter. Dernier mot, on va dire, sur Jean-Claude Van Damme, quoi.
C'est-à-dire, je parle de Street Fighter ou je parle de
tu parles vu que Street Fighter est avec Jean-Claude Van Damme, tu vas nous parler de l'adaptation. Et moi, je dirai un dernier mot.
Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un film de Street Fighter en 94? Tout simplement parce que c'est la licence phare qui parle aux jeunes, quoi. En fait, on est en plein dans le boom Street Fighter 2, du coup, sorti en 91, avec toutes les différentes itérations qui sont sorties après. Street Fighter Prime, Championship Editions, Street Fighter 2 Turbo, voilà, on rajoute quelques petits personnages. C'est comme à l'époque, les Tortues Ninja, ça cartonne, on fait un film Tortues Ninja, voilà. Faut vendre du produit. C'est pour ça, c'est un film qui est avant tout pensé à vendre, et parce qu'on a un titre phare dans le, c'est la licence et qui est phare, qui se retrouve dans le titre, c'est ça qui fait vendeur. D'ailleurs, le film a très très bien marché au box-office. Il a explosé son budget, pas de soucis, ils sont retombés sur leurs pattes. Mais parce que les gens ils sont allés en masse, parce que c'est Street Fighter, c'est ce qui ravage tout. La critique a chié dessus, et a raison.
bien sûr.
C'est juste ça, faut vendre de la figurine, faut vendre. Donc, ce n'est pas un film qui est très respectueux du lore de Street Fighter, qui est assez cryptique. Quand tu joues à Street Fighter, c'est pas le lore qui va te sauter à la gueule de suite, de toute façon. Là, c'est toi qui fais tes petites recherches, etc. Et donc, on pourra très bien faire un petit comparatif. Je vous ai écrit un petit synopsis très basique du jeu Street Fighter, parce qu'en fait le lore et le synopsis de Street Fighter 2 est très très basique en soi.
Ouais.
Donc on peut commencer par ça. Dans sa quête de puissance aveugle, le dictateur M. Bison, à la tête de l'organisation criminelle Shadaloo, organise le second tournoi Street Fighter, The World Warriors. Les combattants les plus talentueux des quatre coins de la Terre participent au championnat pour déterminer qui d'entre eux sera sacré du titre World Warrior et qui saura mettre en déroute les plans machiavéliques de M. Bison. Ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça, et vous allez voir que le Street Fighter The Movie n'en a cure, parce que ce n'est ni un film ni un film de combat, quoi. Au final, c'est plus un film de guerre qu'autre chose. D'ailleurs, donc à la réalisation, on a I de Souza, du coup, qui est quand même un scénariste de base assez renommé, puisque c'est notamment lui qui a fait qui a pondu le scénario de Piège de cristal, le premier Die Hard.
Ah ouais, ah d'accord. Donc, okay. Il y avait des grands noms. Ils se sont dit, on va faire le film d'action. Il y avait de quoi espérer.
Mais après, il y a les producteurs qui ont dû rouler dessus sur le scénar, peut-être.
Sans doute, parce qu'au final, oui, c'est un produit très très américanisé, quoi, en fait. Hein, donc voilà, bah, y a une intrigue, y a un grand méchant qui veut dominer l'univers, et heureusement qu'on a l'armée américaine qui est là pour le dérouiller, quoi. C'est exactement ça.
Parfait.
Ouais.
Je demande que ça.
Et donc voilà, ce n'est vraiment pas super respectueux, et donc c'est ça qui a fait criser les gens à l'époque et qui continue à nous faire grincer des dents. Aujourd'hui, donc voilà, ce soir, on va surtout bâcher le film, je pense. On va bien se marrer.
Et les gars, en termes d'adaptation de justement de licence vidéo, mais en termes de bagarre, ouais. Vous avez apprécié par exemple, je sais pas, les Mortal Kombat. Je sais qu'il y en a eu un pourri apparemment, et ensuite le dernier. Moi, j'ai vu le dernier.
En général, c'est assez mauvais.
Ouais, c'est mauvais.
De base, c'est assez mauvais quand tu prends tout ce qui est live action de films sur les jeux vidéo ou que ce soit sur des mangas,
Super
etc.
Super Mario Bros. Hein. Alors, celui des années 80. Ouais.
Ah oui, le premier, oui, le Super Mario Bros. Ne respecte pas du tout, bien sûr, l'univers.
Oui, mais ça, l'adaptation, c'est normal. Mais je ne vous parle pas que d'adaptation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu adaptes, soit les gens ne sont pas contents parce que ce n'est pas pareil. Et en même temps, il faut être aussi lucide. On ne peut pas faire pareil. C'est le principe, quoi.
Bah alors, ne fais pas.
Ouais, c'est ça. Dragon Ball Z Evolution, quoi. Enfin, après, c'est un
anime qui est. Dragon Ball Evolution, bon, bah voilà, j'en fais des cauchemars toujours, quoi.
Eh bah écoutez.
Je suis allé le voir au cinéma, voilà, c'est la même chose.
Après, ça peut être des portes d'entrée qui vont après te faire comprendre pourquoi c'est de la merde.
Bah ouais, on est là pour rectifier les choses un petit peu, alors du coup, c'est ça qui est bien.
Eh bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir. On va se faire une petite pause musicale, You're the Best, tiré du film The Karate Kid, proposition de Thomas, merci Thomas, et après, on va arrêter les conneries. Après, on va regarder le film, putain. Et moi, je voulais juste vous dire, arrêtez avec Jean-Claude Van Damme. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on se fout moins de sa gueule, mais ces connards de médias français, notamment les Thierry Ardisson.
Oui.
Bon, tous ces gros fils de pute qui étaient encore plus coqués que lui, qui se sont permis de se foutre de sa gueule. Genre, les interviews en France sont inécoutables, on le fait passer pour un blaireau. Alors que finalement, si on réécoute ce qu'il dit, même si c'est over the top, que le mec a une certaine humilité, en fait, quand même.
Et il est sans filtre aussi.
Il est sans filtre. Ouais. Il a une vision simple qui est peut-être un peu new age, c'est peut-être pour ça qu'on s'est foutu un peu de sa gueule, tu vois. Il a une sorte de spiritualité, mais faut remettre les choses en place, quoi. Comme on l'a dit, hein, le mec, voilà, il part de rien, mais vraiment de rien, pour finir, pour accomplir ce rêve américain que très peu de gens ont pu faire. Donc, j'ai envie de dire, les médias français qui aujourd'hui sont encore pires qu'avant, à mon avis, avec leur petite posture là de la France est plus intelligente que les autres, va vraiment falloir qu'on change ça, et je pense qu'on se portera beaucoup mieux en France, et peut-être qu'on aura des élections correctes un jour.
Ouh. Ouais, là il y a du boulot.
T'es bien vierge.
actuelle, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire.
Oh, miss. ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estomplantement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe à ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences.
Du genre de gueule, du genre de gueule, du genre de gueule, du genre de gueule. Tu sers de queue.
Tais-toi.
Tu sers de queue.
Tais-toi.
Tu sers de queue.
Tais-toi. Tais-toi.
Thank you.
Dans le monde aujourd'hui parce que l'homme ne possède pas de mental individualisé. L'homme possède un mental collectif, donc sa liberté, elle est toujours conditionnée par la culture à l'intérieur de laquelle il vit. Tant que l'homme ne possédera pas une conscience autonome, tant que l'homme ne pourra pas penser par lui-même, pour lui-même, en relation avec lui-même, autrement dit, sur le plan d'une intelligence universelle, sa liberté sera toujours relative. Et les hommes et les grandes masses d'aujourd'hui sont ainsi privés de liberté parce que leur situation psychologique ne permet pas qu'ils s'affirment ou qu'ils affirment une conscience personnelle qui soit créative. Ce sont des êtres qui sont beaucoup trop liés au passé de leur culture. Il faut que l'individu ressorte de la masse. Il faut que l'individu ressorte de la culture humaine pour que la liberté entre dans le monde. Sinon, elle n'entrera jamais dans le monde, cette liberté, parce que les pouvoirs politiques, les pouvoirs auront toujours la capacité de la contenir, de la conditionner, ainsi de suite.